turn all your heart is in the mineral. I'm a pro actor, so I ain't got the proof. We've been busting moves, counting cheese on the block, block. Can you please, please get up off the job, job. We've been in the zone on the own, did a lot, lot. Can you please?
The following is a previously broadcast program.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour et bienvenue à votre podcast local « Touche pas à mes droits » de la Clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Je suis Abigail, donc je suis bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel et j'ai notamment participé à la première émission, donc je suis vraiment contente d'être avec vous encore une fois. Mais je ne suis pas toute seule parce qu'aujourd'hui, on a avec nous Ali qui est aussi bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel. Ali, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs?
Oui, merci Abigail. Donc bonjour, je m'appelle Ali. Je suis un étudiant en droit aussi bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel. C'est mon premier podcast et je suis super excité de faire partie de ce projet.
Nice! Mais nous avons aussi comme invité la cofondatrice de la clinique juridique de Saint-Michel. Donc vous êtes avocate en droit criminel, mais vous êtes aussi nominée pour le prix Pro Bono Implication Sociale du Gala Jeunes Barreaux de Montréal. Donc, félicitations.
Merci, merci beaucoup.
Est-ce que vous voulez saluer nos auditeurs aussi?
Ben oui, bien sûr. Je vais prendre le temps de saluer d'abord toute l'équipe de la Clinique juridique de Saint-Michel. Et vraiment, bravo, bravo, bravo. On a eu, parenthèse, un conseil d'administration hier, puis on a passé à travers tous les projets qui ont été réalisés, entre autres depuis la pandémie. Puis cette belle année qu'on a eue, c'est à jeter par terre. Vraiment, on est capable d'aller avoir et porter des actions directes sur le terrain. C'est beau à voir. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des consultations. Il y a plein de projets de recherche aussi. Je pense que c'est le fun de voir ça. Puis, tout le volet profilage racial, évidemment, qui a vu le jour, mais vraiment sous une forme, je pense, où il y a un impact direct. On crée, entre autres, ce podcast-là, qui, je pense, est très pertinent. J'ai d'ailleurs écouté les trois premiers épisodes, quatre premiers épisodes déjà, qui étaient excellents d'ailleurs. Et je tiens à remercier, évidemment, toute l'équipe et Forum Jeunesse aussi d'être là. Avec nous et la Ville de Montréal, là, d'avoir pu créer ce projet-là qui, je crois, est très pertinent et encore plus aujourd'hui.
Merci. Mais nous avons aussi Xavier qui représente le Forum Jeunesse de Saint-Michel.
Bonsoir.
Est-ce que tu veux te présenter?
Donc, mon nom est Xavier Daïdé, alias Amine, pour mes amis musulmans arabes. J'ai 27 ans et je suis en train, Inch'Allah, de finir mon secondaire. Voilà, c'est un peu la merde actuellement avec la COVID et Inch'Allah nous libérer, tout va revenir dans l'ordre prochainement.
Ben oui, donc merci d'être avec nous, puis je sais que tu avais des questions qui concernent le profilage racial, donc on va profiter que Maître Boumefta est là aussi. Est-ce que tu veux commencer à poser tes questions que tu avais, entre autres?
Bien. Quels sont les impacts du profilage racial sur les personnes qui en sont victimes?
Qui en sont victimes? Mm-hmm. C'est une très bonne question, Xavier, mais en même temps une question qui peut prendre un sens très, très large, qui peut affecter les gens dans leur vie, évidemment, personnelle, psychologique. Je ne suis pas psychologue, je n'irai pas là-dedans, mais évidemment que ça impacte aussi au niveau de la justice. Alors, ces gens-là, par exemple, qui ont subi du profilage racial, prenons l'exemple dans le domaine criminel, le domaine dans lequel je pratique, où les gens, par exemple, se font intercepter de façon complètement illégale, simplement en raison de leur couleur de peau. Revenons toujours à ça, c'est le fondement même de ce qu'on dénonce en ce moment dans notre système, qui se font arrêter, accusés aux criminels, menés devant la cour. Alors là, il y a tout ce stress-là que tu vis, d'abord de vivre cette arrestation-là qui est basée fondamentalement que sur ta couleur de peau ou ton apparence, que ce soit, et j'ai des cas également, là, même d'arabe, là, juste parce qu'il y avait une barbe, puis il chauffait le char de sa mère à minuit et demi. Ah! Louche! on va l'arrêter, on va regarder s'il y a son permis de conduire.
Tu sais,
sérieusement, là, des U-turns qui sont faits sur des allées où vraiment, c'est en croisant, en voyant la personne qui conduit, que la police fait un virage. On en connaît, on en voit beaucoup. Alors, c'est sûr qu'il y a l'impact sur place de vivre ça. Je sais pas autour de la table si on fait un petit sondage, là, mais qui est stressé quand il y a un policier derrière lui?
Je pense que tout le monde.
Je pense que tout le monde, OK? On est tous pas mal, même Momo lève la main, là. Effectivement, on est pas mal tous nerveux. Puis là, dès que les lumières allument, t'es toujours comme, oh mon Dieu, si tu m'as... Puis là, je parle en véhicule, par exemple. Il y a plein d'exemples de gens, et lors du marathon qu'on a eu, on a eu la chance de faire un 12 heures de témoignages de gens qui sont venus nous parler de leur histoire. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors, ils conduisent même pas, ils ont même pas leur permis de conduire, puis ils se retrouvent en état d'arrestation. Parce qu'ils chillaient, excusez-moi le terme chillé, mon père va rire, là. Chillé, papa. Alors, de traîner ou d'être dehors avec des amis sur le coin d'un dépanneur où il y a possiblement eu un vol. Oh, on va les arrêter et on va poser des questions. Voyons donc, ils ont 12, 13 ans. Fait qu'il y a un choc qui est fait déjà à un très jeune âge qui va clairement impacter ces gens-là plus tard sur la peur, la crainte de la police, alors que la police est là pour nous protéger.
Surtout qu'à cet âge-là, je pense que. En dessous de 13 ans, il n'y a pas de responsabilité criminelle.
Tu soulèves un excellent point, Xavier. Effectivement, au niveau de la responsabilité criminelle, il y a un certain âge où elle est engagée officiellement. Il y a aussi tout le volet au niveau familial, la prise de décision d'un jeune, etc. On y reviendra peut-être sur un autre podcast. Mais effectivement, c'est des gens, des jeunes, dont la responsabilité criminelle n'est même pas engagée à cet âge-là. Et on revient encore à la base. Pourquoi t'as arrêté ce jeune-là? Clairement parce qu'il était noir, puis il était sur un coin de rue avec deux, trois autres amis immigrants ou de couleur noire aussi, tu sais. Ah, oh, il correspond à la description du voleur qu'on a décrit au coin de la rue, noir avec un manteau noir. Ben là, est-ce que vous...
Mais c'est ça qu'on entend.
Le nombre de personnes qu'on voit avec un manteau noir, puis qui sont noirs, il y en a plein. On s'entend, mais là, ça devient un peu le critère de sélection. Et malheureusement, clairement, ça peut avoir un impact très jeune, mais également de vivre le processus judiciaire quand tu sais que tu n'es pas coupable et que tu sais que ton arrestation était fondamentalement illégale. Et même si tu étais coupable, hein, en passant, là, je tiens à spécifier, on a des dossiers où, je sais pas, les jeunes ou même un client peut être arrêté, par exemple, sur la route, puis il découvre la drogue dans le véhicule. Il y avait de la drogue dans le véhicule, mais la base même de l'arrestation, question mark. Il faut se poser la question puis investiguer là-dessus.
Ça cause même un overflow dans le système criminel et de la justice que... Si on arrête juste des personnes...
Which is?
Il y a beaucoup de personnes, en fait...
If you translate in French.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a plus de dossiers, en fait. Il y a un volume plus gros de dossiers. C'est ça, OK?
Donc, il y a un volume beaucoup plus gros de dossiers criminels, en fait, qui se causent juste parce que les gens se font arrêter à cause de leur peau et pas pour des raisons judiciaires, en fait. Et donc, en ce moment, au lieu de... Les vrais cas qui doivent se passer, en fait, on peut même pas les passer. Ils se font... repousser, et la vraie justice est en train de se faire oublier, en fait, juste parce qu'en ce moment, les gens qui en ont besoin, ils se font mis à part pour le racisme.
En fait, ce que tu soulèves là, c'est quoi? C'est les délais d'un dossier criminel en tant que tel. Ça, je te dirais, j'ai pas les statistiques là, pour te dire exactement quel est le pourcentage de dossiers qui mènent à une conclusion qu'il y a eu du profilage racial puis un retrait, par exemple, des accusations ou quoi que ce soit. Donc, il y a un résultat juridique versus l'ensemble des dossiers qu'il y a, je me mouillerai pas pour te dire oui ou non, mais c'est vrai qu'il y a un volume très important en ce moment en criminel. C'est un problème qu'on essaie de régler au Québec parce qu'il y a beaucoup de reports. Je sais pas si on peut aller dans ce terrain-là
c'est
un peu.
C'est plutôt un aspect politique de ça que je parle.
Mais c'est intéressant par contre, c'est mon point. Oui, Xavier?
Avec Claret Jordan.
Voilà, exactement. Mon Dieu, on a un futur avocat parmi nous. Je t'engage, je cherche des stagiaires étudiants d'ailleurs si jamais ça t'intéresse. Alors, essentiellement, oui, il y a l'arrêt Jordan qui est venu un peu régler le débat sur les délais, mettre un temps clair pour chacune des types d'infractions sommaires ou criminelles, donc 18 mois, 30 mois. Si ça dépasse ce délai-là, ben là, on peut aller demander un arrêt des procédures. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus rare. Maintenant, on connaît quand même la COVID. Alors ça a beaucoup repoussé des dossiers, effectivement, vers l'avant. Puis là, ça engorge un peu le système, mais c'est... Effectivement, ça peut être autant une question politique que de fait. Il y a beaucoup de volume à Montréal, on va le dire. C'est un des plus gros palais, le plus gros district. Alors, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant, Ali, ce que tu soulèves, par exemple, comme point.
Et une question peut-être qui n'a rien à voir, je m'excuse.
Au droit.
Mais qui n'a rien à voir au droit. Mais au niveau du fonctionnement de la justice, quand une personne est jugée, par exemple, au palais de justice de Saint-Jérôme ou à Joliette, la personne doit être jugée, c'est-à-dire dans le district judiciaire où elle a commis l'infraction.
Tout à fait, exactement. Non, exactement. Mm-hmm. Alors, normalement, ce n'est pas en fonction de où est-ce que vous habitez qu'on mm-hmm. vous accuse, c'est vraiment en fonction de où l'infraction a été commise, effectivement.
D'accord.
Donc, oui, si tu peux être accusé à Joliette, à Montréal, à Longueuil, dans tout autre district où l'infraction a été commise.
Du coup, tu habites à Montréal et tu fais une infraction à Val-d'Or. Je ne sais pas s'il y a un palais à Val-d'Or.
Oui, je pense qu'il y a un palais à Amos, mais en tout cas, pas loin. Mais effectivement, il faut que tu te retrouves à comparaître là-bas, effectivement.
Après, tu fais la route.
Ouais. Oui, ça fait partie des délais, mais en même temps, je tiens à rassurer tout le monde, on commence dans la justice à être de plus en plus technologique. On est connecté.
Ok. Oh, nice. Ben, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci, Xavier, pour tes questions. Puis c'est vraiment intéressant que tu poses ça parce que je pense que ça va vraiment enchaîner avec la thématique de cette émission-là parce qu'on va parler sur justement les effets du profilage racial. Donc, on va vraiment se concentrer un peu là-dessus. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause et ensuite, on va parler avec une psychologue. Donc, on va l'appeler tout de suite après. Parfait. Donc, nous sommes de retour à notre émission « Touche pas à mes droits ». Comme dirait Ibar, une de nos bénévoles à la clinique, nous sommes ici pour parler de profilage parce que c'est le sujet de l'heure, mais c'est la réalité de toujours. Donc, on est très content d'avoir comme invité aussi la psychologue Rachida Asdouz. Donc, vous êtes en ligne avec nous en ce moment. Vous êtes psychologue, auteur et chroniqueuse. Vous êtes chercheur affilié au laboratoire de recherche en relations interculturelles à l'Université de Montréal. Vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de la langue française depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de l'éducation pendant 9 ans, donc de 2001 à 2010, et co-auteur d'ouvrages scientifiques sur l'équité, diversité, inclusion et auteur de 2 essais sur le vivre ensemble. Donc bonjour Madame Asdouz, comment ça va?
Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Oui. Est-ce que vous voulez vous présenter à nos auditeurs un peu plus? Est-ce que vous voulez raconter un peu votre journée, comment ça a été?
Oui, ma journée a bien été, une journée en confinement où on travaille beaucoup, 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 mais je me laisse toujours un petit peu de temps pour aller marcher et m'oxygéner dans le quartier. On est très chanceux à Montréal d'avoir de grands espaces, alors j'en profite.
Ben oui, bien sûr, nous aussi, je pense qu'on essaie de prendre le plus de marches possible. Donc, je vais commencer par vous poser une première question. Donc, jusqu'ici, on a eu des juristes, on a eu aussi des sociologues qui nous ont donné un peu leur définition du profilage du point de vue de leur domaine. Donc, je voulais vous poser la question à vous. Vous, en tant que psychologue, c'est quoi le racisme et c'est quoi la psychologie du racisme?
D'accord. Alors, le racisme, en fait, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui est fondée sur l'idée qu'il y aurait une hiérarchie des races, donc des races supérieures et des races inférieures. C'est ça, le racisme. Le racisme, ça peut prendre concrètement plusieurs formes. Il y a un éventail qui va du mépris de l'autre jusqu'à la haine de l'autre et qui peut aller jusqu'à la volonté de l'éliminer physiquement. Et c'est ce qui peut donner lieu, par exemple, à des génocides. Mais le racisme s'inscrit aussi dans la catégorie de la discrimination directe. Vous savez que le droit reconnaît 3 formes de discrimination, la discrimination directe, indirecte et systémique. Mm-hmm. Donc la discrimination directe, dans laquelle s'inscrit le racisme et le profilage, c'est une discrimination par intention. C'est-à-dire qu'on exclut directement et intentionnellement l'autre en se basant sur une caractéristique physique, socio-économique, enfin physique en fait, parce que quand on parle de racisme, c'est la race, même si, d'un point de vue scientifique, on a dû vous le dire dans les émissions précédentes, il a été montré que la race n'existe pas. Mais le racisme, par contre, lui, existe bel et bien. Donc pour résumer, le racisme, c'est une idéologie, et le racisme, la personne raciste, sa psychologie, c'est une espèce de conviction profonde qu'elle est dans son bon droit et même parfois, il y va de sa survie que de s'assurer que sa supériorité et les privilèges qui vont avec soient maintenus et respectés et quitte à développer toutes sortes de mécanismes pour exclure les personnes appartenant à des catégories considérées inférieures. et tous les moyens sont bons, ça peut aller jusqu'au génocide.
Ouais. C'est très intéressant ce que vous partagez. Puis aujourd'hui, on va aussi se concentrer sur les effets du profilage racial. Donc, je vais vous poser des questions qui se relient un peu plus à la psychologie et comment ça affecte le profilage racial au niveau psychologique. Et dans nos recherches, on a pu constater qu'un des effets, c'est il va y avoir comme une diminution du sentiment d'appartenance. Donc, vous me corrigerez si j'ai tort, mais le sentiment d'appartenance, c'est l'impression que quelqu'un va avoir de faire partie d'un groupe ethnique, de religieux, musical, mais aussi de sa société, de sa communauté. Et souvent, lorsque les personnes vont subir du profilage racial, ils vont se sentir inférieurs ou dévalorisés sur le plan de l'appartenance à la société. Pourquoi? Mais parce que le profilage racial va leur laisser ce sentiment humiliant, déshumanisant et douloureux. Donc, les personnes qui vont vivre du profilage racial, elles vont sentir ce rejet de la société canadienne/québécoise en général. Donc, c'est comme si elles recevaient tout le temps un message qu'elles vont être considérées comme tout le temps inférieures ou des personnes étrangères. Donc, ma question pour vous, ça serait plus du point de vue psychologique. Pourquoi est-ce que c'est important de développer un sentiment d'appartenance?
Écoutez, le sentiment d'appartenance est très important. Dans n'importe quelle société, dans n'importe quel groupe, même dans une toute petite ville, et même dans la série régale, et une société, le sentiment d'appartenance est très important. Avec le sentiment d'appartenance, c'est aussi le sentiment de sécurité. Quand on sent qu'on appartient au groupe, eh bien, on a l'impression que le groupe nous protège. Il nous accepte, il nous protège, il nous laisse une place et il nous permet de nous épanouir à l'intérieur du groupe. Vous savez, quand un enfant, par exemple, est un peu le mouton noir de sa famille, qu'il est le mal-aimé ou que c'est l'enfant qui n'a pas été désiré, ou que pour toutes sortes de raisons, il sent qu'il n'a pas sa place, ben, il grandit et qu'il n'a sa place nulle part. Et il grandit avec un sentiment d'attachement, mais aussi un sentiment d'appartenance. Et c'est sûr que ça a un impact sur les personnes tout au long de leur vie. Parce que le sentiment d'appartenance, ça permet aussi la construction identitaire. Mmh. Notre identité se construit aussi autour du sentiment d'appartenance. Et les stratégies identitaires qu'on va développer pour se frayer un chemin dans un groupe, indépendamment de si on est en situation d'immigration ou pas. Mais bien entendu, quand on est en situation d'immigrant, de première ou de deuxième ou de troisième ou même de quatrième, cinquième génération, les stratégies identitaires qu'on va développer vont être très, très influencées par la façon dont le groupe majoritaire perçoit et par la place qu'il nous laisse au sein de la société. Et si quand on appartient à un groupe qui est une image dépréciative, une image négative, une image dépréciée, alors on a deux possibilités. Soit on va projeter cette image, on va l'intérioriser, cette image dépréciative, et on va dire, en effet, j'appartiens à un groupe qui n'est pas intéressant, qui n'est pas associé au succès, à des choses positives, mais plutôt à des choses négatives. Donc, soit notre stratégie identitaire va consister à rejeter le groupe et à se dissocier de lui. Vous voyez des gens qui disent, par exemple, « Ah oui, vous avez raison, les immigrants sont toujours en train de chialer, sont jamais satisfaits, mais moi, je ne suis pas comme eux, je me sens très intégrée et je me sens tout à fait québécois-canadien. » Donc ça, c'est une stratégie de rejet, de la partie de son identité qui est à laquelle on a une être négative et dépréciative et à laquelle une personne va utiliser comme stratégie identitaire de se dissocier. Mais il y a aussi l'inverse. Les personnes qui vont dire parce que mon groupe est associé à une étiquette négative, il y a une image dépréciative, moi, je vais revendiquer mon appartenance à ce groupe. Je vais la revendiquer. Alors, il y a deux variantes dans cette posture-là ou dans cette stratégie. Mm-hmm. Soit je vais revendiquer mon appartenance au groupe en militant, en revendiquant une image plutôt appréciative et en rejetant l'image dépréciative. C'est le fait, par exemple, c'est la posture des militants, des militants antiracistes, anti critiques, homophobie, etc. Mm-hmm. Souvent, à l'inverse, la personne va extérioriser et devenir exactement se conformer à cette critique négative et dépréciative. Mm-hmm. Par exemple, la personne va entrer dans des gaffes criminalisées parce mm-hmm. qu'elle a intériorisé l'idée et l'image. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à un groupe ethnique qui est identifié aux gangs de drogue, et bien moi, je suis entré dans les gangs de drogue. Donc, il va se conformer complètement à la dépréciative.
Oui, c'est ça. Excusez-moi, non, finissez.
Ou au contraire, dissocier et la combattre en militant. Et il y a, à l'autre côté du spectre, la personne qui va dire oui, cette image dépréciative est vraie, vous avez raison, mais moi, comme individu, je m'en dissocie. Et parfois, c'est le groupe majoritaire aussi, qui va lui dire « j'aime pas les Haïtiens, toi je t'aime bien, parce que c'est pas comme les autres Haïtiens que je connais ».
Tout le monde hoche la tête autour de la table en passant, je tiens à le spécifier, là. On est tous comme « on l'a déjà entendu, dès qu'on est d'une autre nationalité, « ah, mais toi, t'es pas comme ça, ah, mais les Arabes, je les connaissais pas comme ça », puis t'es comme « mais t'aurais pu juste me poser la question, j'aurais pu te répondre, puis t'aurais compris que ce que tu penses n'est pas vraiment la réalité, la généralité, enfin, bref ». Excusez-moi, je ne l'ai pas vous interrompre, mais c'était drôle. Il fallait souligner que tout le monde a fait mm-hmm.
Oui, tout le monde l'a vécu, cela. Et c'est intéressant parce que ça a un impact, c'est une façon d'illustrer la stratégie identitaire que vous développez. Alors, il y a la personne qui va dire ben non, c'est pas. Je ne suis pas la seule personne immigrante qui suis travaillant, qui est le travail civique, etc. Mmh. J'en connais pas, plutôt la majorité. Donc, c'est une façon de contester cette image dépréciative, mais il y a la personne qui peut l'intérioriser et même être très contente et dire « ah ben si, c'est vrai, beaucoup de me dire ça, c'est vrai que moi non plus, je ne me reconnais pas dans mon groupe et je me reconnais plutôt dans le groupe majoritaire. » D'accord? Donc, il va plus s'introjeter. Voilà.
J'aurais deux petites questions avec la permission de notre animatrice.
Mais oui, vas-y.
D'abord, je trouve ça très intéressant, toute cette analyse-là, parce que évidemment, c'est je crois à la racine même et peut-être même la source de plusieurs problématiques, que ce soit entre autres la délinquance juvénile, par exemple, des jeunes comme vous pointez qui vont se retrouver dans des gangs de rue par appartenance, telle que vous l'avez mentionné, mais à l'inverse aussi, une source aussi de l'État, essentiellement, ou de la façon dont l'État traite les gens, qui peut être complètement différente. Maintenant, ma première question, avec votre permission, ce serait de savoir, quand vous dites appartenance à un groupe identitaire, tu sais, on parle d'action, on parle de culture, on parle de gestes, de façon de faire, de coutumes, mais qu'en est-il de la peau? On ne peut pas changer ça. Je ne peux pas décider demain matin que ma peau va être blanche comme neige et que je vais avoir les yeux bleus avec les cheveux blonds. Je ne peux pas. C'est quelque chose de fondamentalement ancré en nous. Je voulais vous entendre un peu là-dessus, sur cette distinction-là, où les gens ne peuvent même pas décider par eux-mêmes d'appartenir ou non à ce groupe-là. Le profilage racial, c'est ça le problème. C'est qu'on attache des choses négatives ultimement reliées qu'à l'apparence des gens. Alors, comment les gens se retrouvent dans une situation où, culturellement, ils n'ont même pas de prise de décision à savoir s'ils décident d'être dans le A ou dans le B? On leur impose, en fait, cette position-là. Je voulais vous entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la couleur de peau et cette association-là qu'on en fait, là?
Oui, tout à fait. Je suis très contente que vous me posiez cette question parce qu'en ce moment, tous les groupes minoritaires parlent de discrimination, de racisme. On entend même des gens dire le racisme anti-gay ou anti-femme. Il n'y a pas de racisme anti-gay. Il y a de l'homophobie. Mm-hmm. Il y a des gens qui méprisent les personnes LGBTQ ou des personnes qui les haïssent au point de vouloir les tuer. Il y a des crimes homophobes. Mais ce n'est pas du racisme. D'accord? C'est de la discrimination directe envers un groupe en raison de son identité de genre ou sexuelle. Mm-hmm. La question de la peau est importante parce qu'effectivement, quand vous marchez dans la rue, et là on rejoint le profilage, quand vous marchez dans la rue, c'est pas visible. Votre orientation sexuelle n'est pas visible.
Exact.
Mais il y a des choses qui sont visibles. Et quand vous êtes autochtone, ça se voit. Quand vous êtes et la couleur de la peau, ça se donc c'est sûr que vous êtes plus exposé qu'une personne dont la différence qui peut l'exposer à la discrimination, par exemple un nom différent, une religion différente, n'est visible au point de la rendre en plus fragile au profilage.
Mm-hmm.
Mais dans ce que vous dites, moi, ce que je me touche le plus, c'est qu'on ne peut pas le changer.
Exact.
Mais pourquoi faut-il le changer? C'est le regard des autres. C'est la société.
Exact. Et c'est ce qui m'amène à ma deuxième question un peu, à savoir comment est-ce que la société peut améliorer ou changer ça dans les circonstances? Et à votre avis, comment l'État peut avoir un impact, entre autres au niveau psychologique, auprès des gens, auprès des jeunes, par exemple, qui sont ciblés comme ça, pour permettre, je vous donne un exemple comme ça, mais on en parlait en début d'émission, quand un policier intervient purement et simplement parce que je suis noire, et comme je disais un peu plus tôt, on a eu des témoignages de gens très, très jeunes, 12 ans, 13 ans, qui ont été arrêtés, donc en fait, purement et simplement pour ça, est-ce qu'il y aurait une possibilité justement d'aller atteindre ces jeunes-là, de mieux éduquer les gens, de mieux former? Quelles seraient les solutions, à votre avis, pour permettre finalement un changement et redorer, disons, le blason de la police pour avoir une image vraiment de protection du public et d'assurance et de sécurité, ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas et qu'on se retrouve dans une situation où on est forcé finalement psychologiquement à faire partie d'un groupe négativement perçu?
Oui, je crois que dans le fond, la question du racisme et de la discrimination, parce qu'il faut discuter les deux, vous êtes juriste, il y a le racisme et la discrimination directe, indirecte, systémique. Donc, il y a des discriminations qui sont directement liées au racisme, d'autres qui ne sont pas liées au racisme. Donc, déjà, faire ce travail de clarification contextuelle, c'est déjà une action. C'est déjà être en mesure d'apporter les vraies solutions, les bonnes solutions aux bons problèmes. Poser le bon diagnostic. Maintenant, pour revenir à la police, le racisme, c'est un phénomène qui est antérieur à la police. Toujours existé dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Le racisme change parfois de cible et de forme. Des fois, il devient beaucoup plus subtil, mais il ne disparaît pas. D'accord ? C'est comme un virus qui va muter. Et une fois qu'on a trouvé le vaccin, le virus a muté puis trouvé un autre vaccin.
Mm-hmm.
Donc, dans l'histoire de l'humanité, le racisme, c'est vraiment comme ça. Maintenant, oui, il y a la police, mais la police, c'est juste une partie, la pointe immergée de l'iceberg. Parce que la police, on parle de profilage. Mais le racisme, c'est pas seulement le profilage, il prend d'autres formes. Donc, pour travailler sur dans le fond, pour cheminer dans le sens d'une société un peu plus inclusive, il faut travailler sur toutes les sphères. L'école, la police, le marché de l'emploi. Donc, parce que vous savez, vous parlez de profilage, de police, mais les employeurs peuvent faire du profilage.
Tout à fait.
Un employeur
tout
ne prend pas quand il voit en entrevue ou quand il entend votre nom.
Mm-hmm.
Le profilage dans le logement. Le profilage dans le logement est très fréquent. Vous demandez le logement, on vous dit qu'il est libre. Quand on voit votre couleur. Le logement n'est plus disponible.
C'est tout à fait vrai.
D'accord. Donc, pour agir sur le profilage, il faut agir sur toutes les institutions, pas seulement l'institution de la police.
Mm-hmm.
Et j'aimerais dire quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, parce que je n'ai pas envie de vous répéter ce qui a déjà été dit. Je pense que c'est important d'apporter d'autres éclairages. Il faut distinguer le policier de la police. La police, c'est une institution. Une institution qui, par définition, est une institution qui est là pour exercer l'autorité et la répression, donc pour réprimer le crime, etc. Mais le policier, c'est un être humain. Le policier, ça peut être un bon père de famille, une bonne mère de famille, qui a trouvé cet emploi-là pour nourrir sa famille. Et ça peut être aussi une personne racisée. Il y a des personnes racisées dans la police. Donc, quand on parle de la police comme institution, il faut combattre les dérives racistes de la police comme institution. Mais il faut se souvenir que dans la police, il y a des individus, des policiers, qui peuvent même eux-mêmes être racistes. Et pourquoi c'est important de distinguer les deux? Parce que si on peut agir, il faut agir sur les deux. Les institutions, le système et l'État, et les personnes, les individus.
Donc,
être capable de toucher les personnes.
Tout à fait. Donc, une base éducative. Alors, l'éducation, comme par exemple écouter notre podcast, ça peut être quelque chose de pertinent. C'est un départ, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'apprécie. Je redonne la parole à nos animateurs.
Oui, donc,
merci.
Merci. C'était super intéressant, surtout le point que soit qu'on intériorise ou qu'on extériorise, en fait, nos biais raciaux. Et en fait, pour finir sur une note un peu plus positive, Madame Azdouz, vous avez écrit un livre intitulé « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche », c'est ça? où vous avez penché sur la question complexe du vivre ensemble dans une société. Donc, selon vous et vos expériences en tant que professionnels et psychologues, quelles mesures concrètes peuvent-elles être prises pour contrer les effets du profilage racial? Donc, soit dans votre expérience en tant que psychologue ou juste dans vos recherches que vous avez faites en tant que personne racisée et psychologue, comment vous croyez donc, comme Matt Nada avait demandé, que l'État ou juste la psychologie peut aider à contrer les effets?
Écoutez, vous permettez, parce que dans mon livre, j'ai répondu plus largement à la question, parce que le vivre ensemble, au sens beaucoup plus large, c'est toutes les formes de diversité, mais ça va inclure la question du profilage. Pour vivre ensemble, il faut agir sur tous les fronts, sur tous les terrains. Mm-hmm. Le premier front, le front juridique, le terrain juridique, les solutions juridiques. Le premier geste à poser pour vivre dans une société inclusive et égalitaire, c'est d'interdire légalement toutes les formes d'exclusion et de rejet et de discrimination. Et ça inclut le profilage. Racial, et ça inclut aussi le profilage socio-économique et d'autres formes de profilage. Mais, par exemple, des personnes qui sont itinérantes et qui vont être beaucoup plus... on a eu des drames à Montréal, donc de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale et qui ont été profilées, puis ça a généré des drames. Donc, la première réponse, dans une société qui se veut démocratique et inclusive, c'est la réponse du droit, c'est des solutions juridiques, c'est des chartes et des lois qui protègent les individus contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes.
C'est rassurant quand on voit un projet de loi comme le projet de loi 21.
Ouais.
C'est un peu triste parce que je trouve que ça, on va pas mal à l'encontre de ce qu'on entend comme geste positif et disons que ça serre le cœur un peu. Mais je voulais juste savoir, en fait, repartir sur la question d'Ali, là. Quand on parle d'un impact sociétaire, effectivement, ça peut passer par la législation. Mais vous l'avez souligné, là, il y a des formes qui existent même au niveau médical, et d'ailleurs la clinique juridique va entamer un projet là-dessus sur la discrimination médicale des gens parce qu'ils sont d'une couleur ou d'une nationalité X ou Y se retrouvent, et là je vais citer en exemple l'exemple de Mme Échaquan à Joliette qui a vécu et malheureusement qu'on a vu mourir aussi en ligne, d'ailleurs toutes mes condoléances à la famille et à la communauté. C'est dramatique, c'est quelque chose où on se dit on est au Québec puis on vit. Et on constate ce type de comportement-là de l'État face aux gens qui ont encore lieu et qui arrivent. Mais je suis d'accord avec vous que les gens, autant le système de santé que les policiers, demeurent des êtres humains et demeurent chacun à un poste où ils désirent faire le mieux. Mais en même temps, quand on voit des exemples comme ça, c'est choquant. Et je vais me permettre peut-être un petit mot de la fin là-dessus. On invite les gens à dénoncer. On invite les gens à venir cogner à la porte de la clinique puis nous le dire. J'ai subi du profilage racial. Pouvez-vous m'aider? On a une équipe qui est là pour ça. Et vous l'avez dit, hein, il faut dénoncer ça pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait des applications de la loi et des changements au niveau de la loi. Si on ne dénonce pas et on garde les yeux fermés en pensant que ça n'existe pas ici au Québec, ben on se met des visières et la loi ne changera pas demain matin, là.
Si vous permettez, la deuxième catégorie de réponse, il y a des solutions juridiques, il y a des solutions pédagogiques, la sensibilisation, bien entendu, la sensibilisation, l'éducation du grand public, donc l'éducation des adultes, l'éducation populaire, mais aussi l'éducation dans le système scolaire. Et il y a des réponses éthiques, Et les réponses éthiques, c'est très important de dénoncer, c'est très important d'exprimer la colère, et c'est tout à fait sain, cette situation. Ben, comme ce qui est arrivé à Joyce, est l'illustration parfaite d'un mélange systémique, mais aussi d'individuel. Parce qu'il y a quand même, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les personnes qui, comme personnes et comme individus, ont tenu des propos absolument inacceptables, et il faut les pénaliser aussi, d'accord? Parce que le système, c'est aussi vous et moi, là, c'est des individus aussi. Maintenant, ma réponse aussi, c'est que c'est très important de dénoncer. C'est la première étape, de nommer, de ne pas nier. Mais il faut aussi, ultimement, la colère est un bon moteur. Mais la colère n'est pas une belle destination, parce que ça conduit au ressentiment. Et le ressentiment, ce n'est pas la justice. Le ressentiment, c'est la vengeance. D'accord? Donc moi, dans mon livre, pour le vivre ensemble, je rappelle ça, que ultimement, quand on a dénoncé, exprimé sa colère, combattu, pénalisé, sanctionné les responsables, il faut aussi penser collectivement à reconstruire le lien social, à refaire ce et la reconstruction du lien social, elle doit se faire dans l'apaisement. Autant la dénonciation des injustices et des inégalités se fait dans la colère, autant la reconstruction du lien social, qui est un enjeu éthique, doit se faire dans l'apaisement. C'est extrêmement important, sinon on se dirige vers la guerre civile. Ce n'est pas souhaitable.
Non, vraiment pas. Je ne pense pas que c'est ce qu'on veut, une guerre civile. Pas en ce moment, en tout cas, puis jamais. Mais Madame Asdou, je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup appris. Je vous remercie grandement de votre temps. Et je pense qu'on garde votre bagage et vos connaissances en nous. Donc, je vous remercie très grandement d'avoir pris le temps de participer à notre émission.
Oui, merci beaucoup.
Merci à vous et merci aussi de vos interventions et de vos commentaires. Alors, bon courage.
Merci. Merci. Donc, nous sommes de retour à notre émission « Touche pas à mes droits » et on vient juste de terminer l'appel avec la psychologue Rachida Asdous. Puis, j'ai vraiment aimé comment elle nous a expliqué tout ça. Puis, je trouve qu'elle a confirmé nos recherches parce que justement, on avait vraiment remarqué à quel point quand quelqu'un vit du profilage racial, ça va l'affecter, ça va le toucher, son sentiment d'appartenance, mais ça va aussi comme toucher son identité. Et on peut voir aussi qu'il y a comme une intériorisation d'un comportement dès un jeune âge. Puis on peut voir, par exemple, on avait reçu récemment Montréal sans profilage. Donc c'était Rita qui était avec nous, puis il nous parlait que les jeunes, quand ils faisaient face aux policiers, souvent leur première action, c'était de répondre face aux policiers. Puis ils faisaient ça justement pour comme assumer leur intégrité physique, justement, parce que c'est comme s'ils avaient senti un sentiment d'abandon ou un sentiment d'injustice de la part des institutions de l'autorité. Fait qu'eux, pour reprendre leur autorité comme un genre de empowerment, on dirait qu'ils vont répondre aux policiers, même si à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas vraiment l'idéal, mais c'était pour comme réapprendre, reprendre leur pouvoir. Donc, aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous, quand on faisait nos recherches pour le podcast, on a comme réalisé qu'on avait tous eu le talk, c'est comme ça qu'on l'a appelé après, puis c'est comme cette conversation, discussion que tu as eue à un moment donné quand tu étais jeune avec tes parents ou avec quelqu'un de ta famille sur c'était quoi le racisme, c'était quoi le profilage racial, mais aussi comme comment réagir face à la police ou genre pourquoi est-ce que genre ma mère va se faire regarder un peu bizarre parce qu'elle porte un voile, tu sais. Je parle de mes amis, genre.
En général.
Toi, Ali, comment c'était ton talk?
Oui, donc en fait, c'est super intéressant la partie du talk. Juste une petite histoire sur ça. C'est une conversation, un débat qui est vraiment ressorti beaucoup plus fréquemment, en fait, avec l'émission Grey's Anatomy. Ils ont eu une émission où ils ont mis le talk, en bon français, avec leur enfant noir, en fait, sur le profilage racial et comment ils vont se faire traité par la police et par la société. Et ça a vraiment ouvert un débat, un discours beaucoup plus connu parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas racisées ne savaient même pas que ça existait, le talk. Donc moi, je me rappelle super bien de la fois où on m'a vraiment parlé très clairement de c'est quoi le racisme et comment tu vas être traité. Et c'était au Longueuil, à Brossard, dans la rive sud de Montréal, dans le Mel Champlain. Une fois, on attendait en ligne dans le David's Team avec ma sœur, elle est voilée, et avec quelques personnes qui nous ont coupé en ligne. Et moi, j'avais peut-être 7-8 ans, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, et je parlais très fort, puis j'ai commencé à pleurer. Je dis, pourquoi elle nous coupe? Ouais, j'étais un enfant, et ma sœur, elle m'a pris de côté, puis elle m'a dit, regarde, on est, genre, je porte le voile. T'es plus foncé. Les gens, ils vont te couper en fil et tu peux pas réagir comme ça. Et c'était... On m'a vraiment comme assis pour m'expliquer que les gens qui sont pas racisés, ils peuvent et vont nous traiter différemment, malheureusement. Et il faut réagir d'une façon avec beaucoup plus de dignité. Il faut être beaucoup plus calme et il faut pas, en bon français, play into the stereotype. Et c'est vraiment qu'est-ce que la psychologue juste avant nous disait, c'est soit on peut l'intérioriser ou le revendiquer et l'extérioriser. Et beaucoup de fois, le talk, c'est vraiment de... Il faut comprendre pourquoi on est traité de cette manière et il ne faut pas le il ne faut pas jouer dans le stéréotype. Et hopefully que dans le futur, les gens vont nous voir pour qui on est vraiment. Et c'était vraiment, ouais, vraiment intéressant. Et beaucoup de personnes racisées à qui je parle, ils ont eu ce discours avec leurs parents, mm-hmm, pour leur expliquer comment la société fonctionne et comment ils vont être traités d'un jeune âge. Et comme on disait au début du podcast, en fait, juste à un jeune âge de même 12-13 ans, tu peux être, la police peut venir t'interpeller. Et en fait, ça commence d'un âge encore plus jeune que ça.
C'est vraiment bien dit, Ali. J'apprécie beaucoup d'abord le partage de ton histoire parce que je pense que ça parle beaucoup. Mm-hmm. Moi, ça vient me chercher parce que je l'ai vécu aussi en tant que femme de couleur, musulmane, jeune fille qui arrive, oui, d'un autre pays. Je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans. Ma grande sœur était plus vieille.
Toi aussi, tu as eu le talk?
On l'a, je pense, tous eu. Moi, je l'ai vécu peut-être différemment, entre autres à l'école, mm-hmm, par l'intimidation, beaucoup. Wow. Avec un B majuscule, puis je vous dirais que ça m'a touchée très, très jeune, même au primaire, tu sais, de faire gueuler terroriste, ton père c'est un ci, ton père c'est un ça, parce que justement, il y avait eu les attentats terroristes. C'est choquant, et je tiens à dire que je le vis même encore aujourd'hui, à mon âge, avec des expériences, et je peux vous partager cette anecdote-là, un peu comme toi, Ali, là. T'étais dans un centre commercial, j'étais dans un centre commercial avec ma mère. Ma mère ne porte pas le voile, mais on est quand même, on le voit, là, on n'est pas, ouais, pas blanche. Puis écoute, je parlais avec elle dans une allée en arabe, puis on parlait de souliers, bien normal. Mm. Puis un gars de l'autre côté de l'allée, un vieux monsieur qui était avec sa conjointe, qui est venu nous confronter en mode « qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Ici, on parle en français au Québec, blablabla. Ouais. » Écoute, j'étais à l'université là, quand ça s'est passé, ça. C'est, okay. T'es, wow, comme « ah, my God, qu'est-ce que c'est ça? » Mais j'avais, je pense, plus la maturité qui était présente par rapport à avant. Ma réaction face à ce monsieur-là n'a pas été, comme tu dis, Ali. C'est, ouais, c'est tout à fait juste de dire, de crier ou de gueuler ou d'insulter les gens. Je pense qu'il y a toujours moyen, même avec les plus cons des cons, d'avoir une discussion, exactement, ou un dialogue, ou à tout le moins, laisser une trace d'un message, juste poliment. Tu sais, bonjour, mon cher monsieur, comment est-ce que je peux vous aider? Préférez-vous l'anglais, mm-hmm, ou le français? Là, sa femme en arrière. Viens-t'en, viens-t'en, on s'en va, ouais, on s'en va. Écoutez, je peux vous faire la traduction si ça vous tente. Je peux même vous apprendre l'arabe si vous voulez.
On peut même mettre un accent québécois, mm-hmm, pour l'arabe.
Écoute, ouais, tu sais, mais même ça, c'est pas à moi de changer, mais c'est une, ouais, réalité à laquelle, premièrement, qu'on doit comprendre. Et je pense que la psychologue l'a bien dit aussi, on doit éduquer tant les jeunes qui le sont racisés que ceux qui ne le sont pas, évidemment. Mais la meilleure protection, c'est de connaître ses droits.
Ouais.
C'est de savoir comment réagir. C'est de ne pas embarquer exactement, ah, comme tu le disais, dans ce qui déboule rapidement, l'effet boule de neige, puis donner des raisons. Soyons tous et toutes des êtres humains à la base, mm-hmm, mais capables aussi d'avoir ce dialogue-là, de vivre ensemble. Ça commence par ça. Alors, face à des cas comme ça, où moi, je les appelle les cas extrêmes, là, je veux dire, à un moment donné, tu rentres dans ma bulle ou tu réagis comme ça, ou, ouais, tu me dépasses en ligne, ou tu me fais des regards de la tête en haut, en bas, et je le vis, je tiens à le spécifier encore, et même peut-être plus quand je suis avec ma belle-mère, par exemple, qui est québécoise. On va magasiner ensemble. Hey, les regards, mes amis.
Mm.
Les regards qu'on a. C'est quoi leur relation? C'est, mm-hmm, qui, elle? Es-tu adoptée? Écoute, on a tout. C'est fou! Alors que, at the end of the day, c'est même pas de tes affaires. Genre, fais ta vie, je vais faire la mienne. Mais revenons au droit, puis revenons à ce que tu disais en début de résumé. C'est important de les connaître, mm-hmm, mais de bien savoir les appliquer. Quand on fait face à la police, on est en situation d'autorité. Mm-hmm. C'est vraiment important de revenir à la base. Le droit au silence, donc on ne parle pas. Même si on n'a rien fait, même si on n'est pas... On le sait qu'on est arrêté de façon injuste. On le sait que ça n'a aucun bon sens. Donc, run away, fuir n'est pas une option. Ça peut escalader quickly. Les seules choses que vous avez l'obligation de dire, c'est votre nom, votre adresse. C'est tout. Le reste, on garde le silence, on garde son calme, on suit, on collabore. Et par la suite, si vous sentez avoir vécu une injustice, venez nous voir à la clinique juridique de Saint-Michel. On va décortiquer tout ça, puis on va s'assurer que vos droits sont défendus. Mais, et ça, comme tu le dis, même d'un jeune âge, les jeunes doivent le savoir, mm-hmm, et doivent savoir l'appliquer. Et vous avez également droit à l'avocat. Et quand vous êtes mineur, vous avez le droit à la présence d'un parent également. Alors, quand la police arrive et vous intercepte, là, ça peut même être un réflexe. Là. Je veux appeler ma mère, je veux appeler mon père ou je veux appeler un avocat. Encore plus quand vous savez que votre situation, là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est pas le temps de poser des questions. C'est pas le temps de donner de l'information. Encore une fois, c'est la cour des films. Tout ce que vous dites peut être retenu contre, mmh, vous. Exactement. Alors, et comme tu as dit, Ali, c'était vraiment un très bon exemple. Je te remercie de l'avoir partagé, d'ailleurs.
Merci. Donc, en fait, ça, c'est... En fait, c'est parfait parce que c'est exactement ça de quoi on va parler juste maintenant.
Super.
Donc, comme la psychologue disait, ça affecte tous les aspects de notre société et de nos vies. en fait, donc de comment on éduque nos enfants, comment on marche dans la rue, mm-hmm. et surtout dans le domaine juridique. Et donc, comme vous avez dit, Maître Nada, il y a plusieurs aspects criminels ou avec la police dans lesquels on peut être interpellé avec le profilage racial. Mm-hmm. Et un point important à noter, en fait, c'est le point de la justice participative.
Mm-hmm.
Donc, pour nos écouteurs, en fait, la justice participative, c'est une nouvelle conception de la justice, en fait. Donc, c'est une approche nouvelle complémentaire à la justice traditionnelle que vous pouvez penser avec un juge, un avocat. Et ça intègre, en fait, nos notions de droit, la philosophie, les éthiques, etc. Et beaucoup de fois, ça interpelle la médiation. Donc, tu peux avoir un avocat, tu ne peux pas avoir d'avocat, juste un médiateur. Et en fait, selon les données obtenues, en fait, par le devoir, on a appris que plus de un quart des plaintes reçues pour le profilage racial ont été abouties en médiation. Et en fait, juste de ce un quart, seulement 10 à 13% ont été soldés par une réussite avec la médiation. Donc, Maître Nada, comme vous êtes criminaliste, avocate, et vous êtes aussi cofondatrice de la Clinique juridique Saint-Michel, selon vous, quelle est la place du droit criminel dans tout ce qui se rapporte au profilage racial? Et autre que la justice traditionnelle, est-ce que vous croyez que l'arbitrage et la médiation peuvent avoir des solutions dans le profilage?
C'est des excellentes questions parce qu'on est effectivement dans un tournant au niveau de la justice. Je vous dirais depuis, entre autres en civil, là, depuis le changement du code de procédure civile, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, en termes de droit, justement, à l'application du droit ou le règlement de litiges et de problèmes juridiques, souvent en droit familial, c'est là où on va pousser le plus pour qu'il y ait des rencontres avec des négociateurs, avec des médiateurs, pardon. Donc, on va essayer d'avoir l'application de la justice alternative pour régler ce genre de situation-là. Souvent, c'est des situations où c'est conflictuel. Monsieur veut ci, madame veut ça, on essaie de régler, avoir un terrain d'entente.
Mm-hmm.
Ce qui me résonne dans cette façon d'appliquer le droit, c'est l'espèce de terrain d'entente. Essayer d'arriver à un compromis auprès des deux parties. Ce qui raise, selon moi, ce qui soulève la question... Est-ce que c'est ce qu'on cherche au niveau des cas de profilage racial, un compromis?
Mm-hmm.
Non. Mm-hmm. Non. C'est non. C'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu mm-hmm. et qui doit cesser. Okay. La seule façon de le faire cesser, c'est de porter plainte, de mener le dossier à terme, d'apporter nos arguments, que ce soit devant la commission, devant l'équipe de déontologie policière ou devant la cour criminelle. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, puis shout-out à l'équipe, on a eu des résultats récemment dans un dossier de profilage racial où il y a eu un arrêt de procédure, puis je tiens à féliciter Laurence Pinet, qui est une étudiante avec nous, et toute l'équipe de profilage racial, Maître Belton également, qui ont travaillé là-dessus puis qui ont réussi à avoir un résultat concret dans un dossier comme ça de profilage racial. À mon avis, on n'est pas dans une situation vraiment où on a discuté pour comprendre si le policier... Mais qu'est-ce qu'on aurait en échange? Qu'est-ce que la victime aurait en échange? Je me questionne. Personnellement, j'en ai jamais fait de dossier de ce type-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut et on devrait creuser dans cette lignée-là pour en arriver à une solution où il n'y en aura plus? Pourquoi pas? Mm-hmm. Restons ouverts. La justice doit être flexible, à mon avis. On ne doit pas être fermé d'esprit. Mais je me questionne vraiment si ces méthodes-là, dans le cas de dossier profilage racial, seraient la meilleure façon pour éradiquer, et je spécifie, ouais. on veut éradiquer ce type de comportement-là.
Oui, absolument. C'est sûr que ça ouvre le dialogue, ça le favorise surtout. Mm-hmm. Mais c'est vrai, est-ce qu'on cherche vraiment un compromis quand ça arrive au profilage racial? La réponse, c'est non.
Pour ma part, c'est un non clair, ouais. définitif. Tout à fait. Alors, encore une fois, puis au risque de me répéter, on vous invite à venir cogner à notre porte à la clinique juridique.
Absolument.
On a une équipe exceptionnelle. Si vous sentez que vos droits ont été brimés, que ce soit de la part d'un policier ou même au niveau médical, par exemple, parce qu'on développe sur ce sujet-là également... Venez cogner à votre porte. Il faut qu'on le crie haut et fort que ça existe, mais il faut take action aussi. Il faut ouais. aller mener ces causes-là devant les tribunaux si on veut des résultats écrits et certainement des résultats qui pousseront peut-être un jour le gouvernement à peut-être agir ou légiférer comme a été suggéré par notre psychologue.
On espère.
Ouais.
Donc, on vous attend à la clinique à bras ouverts et avec nos masques
ben,
surtout.
Oui, oui.
Et en fait, comme à la clinique, mm-hmm. c'est passé, pendant l'été, on avait eu un marathon en fait, de témoignages dont vous avez fait partie.
Oui.
Donc, est-ce que je peux restart? Ok, ouais, je vais juste restart.
Parfait. Le marathon.
Ouais. Ok, oui. Ouais, c'est ça. Donc,
Michel, vas-y, allez, tu l'as.
Cut, on ressent maintenant.
Vas-y.
Donc, comme on disait, en fait, avec la clinique juridique, pendant l'été, on avait eu un marathon de témoignages dont vous avez fait partie. Donc, qu'est-ce qui vous a frappé le plus à ce jour pendant, en termes de données, pendant les témoignages, les histoires que les gens disaient et les cas, en fait, que vous avez vus les plus souvent revenir?
Effectivement, allez, on a tenu là, avec Renzel d'Ashington, Maître Belton, moi-même, j'étais présente, Zanga également, on avait l'équipe de Neolab qui était avec nous et d'autres collègues et étudiants de la clinique juridique. Je te dirais que ça a été une expérience qui donnait froid dans le dos parce que 12 heures, on n'a pas arrêté.
Ça aurait pu continuer.
Il y a des gens qui étaient en stand-by, guys, pour parler, qui n'ont même pas parlé cette journée-là, pour vous donner une idée à quel point, premièrement, il y en a du monde qui en subissent. Donc, ça existe, hashtag ici aussi. je vous invite à aller vous acheter votre logo votre hoodie, dès que possible. Ce sera en ligne, d'ailleurs, sur notre site Internet avec un espèce de pop-up shop. Et si vous voulez représenter fièrement notre logo par notre artiste, Claude Leblanc, qui nous a fait un logo hashtag ici aussi, je pense que ça, c'est la première chose, Ali, qui me choque, c'est de voir à quel point les gens niait l'existence du profilage racial ici au Québec. Ouais. On avait cette vision-là que c'était qu'aux États-Unis, c'est les États-Unis. Non, je m'excuse, on en subit ici aussi. Et la preuve, c'est ce marathon-là, les gens sont venus témoigner là-dessus. Ça, c'est de un. Le deuxième aspect qui m'a peut-être surprise, et ça, je le répète peut-être, Ali, mais le jeune âge des gens des gens qui sont aujourd'hui, qui ont 40 ans, 50 ans, une famille, une vie, qui te parlent d'expériences de quand ils étaient jeunes, ça te donne des frissons, là, vraiment. Là, t'es comme, oh my God, comment est-ce qu'un enfant peut avoir vécu ça dans sa vie? Là? C'est comme, non, là, tu te sens même plus protégé par cette entité-là, ça te traumatise limite, là. Puis j'ai des histoires d'horreur qui peuvent même dépasser les témoignages qu'on a entendus ayant eu des dossiers de la sorte. Maintenant, l'autre chose également, c'est peut-être de voir, on a vu, c'était beaucoup d'hommes noirs. Il existe aussi, puis ça, on le spécifie avec notre chat psychologue qui a témoigné là-dessus. Il y a aussi les Autochtones hein, qui sont très, très, très frappés par ça. Les Arabes également ont fait partie des statistiques. On est vraiment frappés par cette problématique-là. Et une des choses qui est ressortie vraiment, c'est entre autres une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais celle de Freddy Villanueva.
Ouais.
Alors essentiellement, cette histoire-là est quand même assez terrible. On a eu le témoignage d'une personne qui était là sur place. Alors ça a été des policiers qui ont intervenu dans un parc. Pour faire une histoire courte, l'identification d'un individu qui était là au parc, qui avait des antécédents judiciaires, qui est venu se faire vérifier par la police. Et finalement, le policier a dégainé son arme et a tiré, ce qui a tué cet individu-là. En fait, son frère a été tué dans cette démarche-là. Ouais. D'autres ont été blessés. Et la personne qui est venue témoigner de ça était la dernière personne au bout du fusil, essentiellement. Il était le prochain à recevoir une balle. Ça donne des frissons. Quand tu dis qu'on en est, il y a même des dossiers, des cas, puis je pourrais en nommer d'autres au Québec, où il y a une question d'utilisation d'armes à feu, où on parle de la vie de l'individu. Ça donne vraiment des frissons, puis ça remet en question beaucoup toute cette situation-là. D'abord, ça existe. Ensuite, ça atteint des gens très jeunes. Et malheureusement, ça peut même coûter la vie des gens.
C'est exactement une des raisons pourquoi on ne cherche pas un compromis, en fait.
Exact. Parce que t'as tout compris.
C'est noir et blanc à ce point-là quand t'as ça revient compris. À la vie.
Qui est un jeune qui a été tué, qui est un ami d'une personne que je connais aussi. Voilà, et puis voilà, il a été tué, enfin une bagarre. Et voilà.
Alors, t'as vécu ça, Xavier, là, tu sais, connaissance d'une chose qui s'est passée dans le quartier, en tout cas.
Tout à fait, je sais que c'était un parc qui est juste en haut de chez moi.
Et voilà. Alors, il y a ça aussi, hein. Il y a quand même d'autres gens qui peuvent être autour de cette intervention policière-là. Puis je pense qu'on l'a vu d'ailleurs aussi cet été, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais la jeune fille mineure qui s'est fait arrêter, qui faisait partie d'un groupe de 20 jeunes ou une vingtaine de jeunes en tout cas, puis c'était la seule immigrante, puis c'est elle qui a été arrêtée par la police spécifiquement parce qu'ils ne respectaient pas les règles sanitaires de rassemblement. Question mark, tu te poses des questions. Tout à fait.
J'ai pas entendu parler de ça.
Tu revois, ça a été même filmé. C'est souvent les cas en fait qui sont filmés.
Ouais.
Dont on entend parler, malheureusement. Et ça a un peu commencé comme ça, hein, le mouvement officiel. Je tiens à spécifier que la clinique juridique, depuis ses débuts, on a ça à cœur comme mission de combattre le profilage racial, mais vous comprendrez que depuis la mort très tragique et malheureuse de George Floyd, ça a évidemment propulsé un peu plus. J'espère qu'on ne retournera pas dans nos vieilles pantoufles puis qu'on va pouvoir continuer à avoir des actions concrètes pour éradiquer ce problème-là.
Donc, en fait, comme vous disiez, des exemples en fait, de vos témoignages, en tant que professionnel juridique, en fait, est-ce que vous avez vu des cas de profilage racial avec vos clients? En fait?
100%. 100%. Dans la pratique criminelle et pénale, évidemment, vous comprendrez que c'est un système où on accuse les gens. Donc, ça commence par une arrestation à quelque part, la collecte de preuves contre un individu. Donc, je vous donnais un peu l'exemple de la drogue dans un véhicule. Pour atteindre cette preuve-là, il a fallu arrêter d'abord la personne pour fouiller le véhicule, etc. Alors, il y a plusieurs questions juridiques qui sont soulevées. Et dans le cadre de mon travail de criminaliste, oui, je dois regarder ça, je dois m'informer. Souvent, c'est le client qui va en témoigner. Écoute, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qui a été fait. Puis je tiens à spécifier que d'ailleurs, il y a un des témoignages qu'on a vus, que son intervention a été filmée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que c'est sur nos réseaux. Écoute, le policier, il pogne par les cheveux puis il tire de l'auto. Là, t'sais, il est du côté passager. Tu vois que l'intervention policière est un peu costaude. Tu ne comprends pas trop est-ce qu'il est en état d'arrestation ou pas. Il demande au policier, est-ce que je suis en état d'arrestation? Puis le policier le menace. Tu ne sors pas tout de suite. J'ai pas le quote exact, mais c'est quasiment, je vais te montrer un peu comment je travaille, puis il finit par le sortir par les cheveux.
Il y a quand même eu une action abusive de
tout
sa part.
Tout à fait. Je pense que ça, c'est un exemple clair, dans le sens que ta sécurité était-elle vraiment atteinte? Ouais. Qu'est-ce qui justifiait ce geste-là? Mais on peut le voir aussi avec des arrestations un peu plus de force, là, où les gens vont se débattre, etc. Mais ça revient à ce que tu disais, Ali, il faut aussi connaître et bien répondre face à ça. Donc, c'est sûr que si on devient agité, mouvementé, qu'on argumente, qu'on parle beaucoup, qu'on crie ou qu'on n'aide pas du tout notre situation. Et je tiens à spécifier ici, je me permets un petit commentaire édito, mais juridique en même temps. Vous avez le droit de filmer. Il n'y a rien et personne qui ne vous interdit de filmer l'intervention. Toutefois, je me permets de faire une petite parenthèse et attention. Vous devez respecter le périmètre de travail des policiers. Alors souvent, quand ils vous demandent de vous reculer, collaborer et reculer, mais ça ne veut pas dire d'éteindre votre caméra ou de vous enlever. Il n'y a rien qui vous empêche de filmer, mais le policier pourrait vous accuser d'entrave, par exemple, si vous êtes dans sa face en train de filmer. Il va vous dire que vous l'empêchez de faire son travail, puis ça peut escalater aussi quickly. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Ça ramène, peut-être que vous en parlez dans une autre émission, mais le débat de la caméra sur les policiers, on en reparlera sur un autre épisode, mais je pense que ça soulève peut-être même la pertinence de cet appareil.
Donc, en fait, comme vous avez mentionné, le mouvement Black Lives Matter avec George Floyd, en fait. Et ça a vraiment soulevé un discours, en fait, qui avait commencé depuis quelques années, mais qui devient de plus en plus commun, au moins, surtout dans les politiques. Et on ne va pas se le nier, les États-Unis, ils ont un effet très grand sur le Canada aussi. Donc, c'est quand même important de garder un œil sur ça.
Tout à fait.
Et par rapport à ça, en fait, similairement à ce qu'on avait posé à Madame Azdouz, la psychologue, en tant que criminaliste, est-ce que vous croyez que, dans votre expérience, est-ce que vous avez des situations, de l'information ou une perspective différente sur comment régler ou mitiguer des effets du profilage racial, peut-être des redevances sur le système juridique au Québec ou au Canada, ou juste peut-être un changement de philosophie sur le droit?
C'est des bonnes questions que tu poses, Ali, vraiment, mais c'est tellement des questions, je veux dire, pas large, en fait, pas ça. Je pense que c'est assez précis dans le sens qu'on cherche des solutions. Je ne ferai pas ma politicienne en te disant que je n'ai pas de plan d'action dans les prochaines années, alors je vais regarder avec mon équipe. Mais je vais vraiment te répondre très sincèrement en disant que je pense que l'action, comme Madame... je ne veux pas massacrer son nom, je le dis, merci, pardon. Le mentionner, tu sais, ça part d'abord d'une base d'éducation. Ouais. Alors, je pense que ça commence par les maisons, donc chez Absolument. Tout le monde, que ce soit que tu sois blanc, noir, chinois, arabe, peu importe d'où tu viens, je pense que ça vient des parents à la base. Cette éducation-là qu'on peut aussi faire une analogie un peu, parce qu'elle le fait au niveau de la sexualité, accepter les homosexuels, les choses comme ça. Je pense que ce débat-là, on peut même le pousser au niveau gars versus filles, la place des filles dans le monde, comment le respect, puis on va plus loin en parlant, entre autres, de tout le débat qu'il y a eu à chaque MeToo. Donc, la façon dont on interagit entre nous, êtres humains, est questionnable. Certainement une éducation meilleure. Je pense peut-être une meilleure formation des policiers serait nécessaire. et peut-être aussi non seulement une formation avant d'être sur le terrain, mais une meilleure formation sur le terrain, ouais. d'apprendre à connaître ton quartier, d'apprendre à connaître les gens qui y vivent, être conscient de cet environnement-là. Je pense que ça mériterait d'être travaillé en ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a un travail, je te dirais, le profond de terrain avant de penser à la pousse, puis à l'arbre, puis aux fruits que ça va donner. Alors, idéalement, on ne veut plus que ça arrive, mais une des façons de le faire, je pense, c'est en faisant ça. L'autre façon, c'est de dénoncer. Donc, utiliser le système de justice pour mettre de l'avant, créer de la jurisprudence, comme on dit dans notre jargon, pour ne plus que ça arrive. CKUT.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
This is a show about individual experience and personal identity. There may be times when folks use identifying words or phrases that don't feel right to you. That's part of what we're exploring here. Please listen with an open heart, and as always, I welcome your polite, engaged feedback, and I encourage you to continue the conversation in your own life and with your own community. Welcome to Query.
Hey, Queeros, Cami here. Today on the show, Trace Strangio and Nikki Levy. Now, Chase told a story on Owning It, which is one of Nikki's shows on Audible. She also has a show called Don't Tell My Mother. But also, Chase is a super important lawyer to us, to our family. So this was a really cool conversation. I've known Nikki for a long time, never met Chase, and it was a great talk with both of them. Also, speaking of great talks, I'm good at giving those. And I'll be in Philadelphia September 3rd through 5th, Portland September 15th, San Francisco.